Ouais. Il fonctionne, celui-là. Bonjour à toutes et à tous. On va reprendre cette deuxième partie de cycle de conférences. Donc, je vous présente l'équipe Atelier Sol Vivant, qui est composée de Leïka Barthes, qui est urbaniste, Cécile Valder, qui est urbanigéographe, et moi-même, Maëlle Proust, architecte paysagiste, en cours d'obtention du master en urbanisme. Et nous avons créé l'association Paysage Sol Vivant, dont nous vous parlerons plus en détail cet après-midi. Et nous intervenons aujourd'hui, car Plantes et Cités nous a mandaté pour organiser les balades sur les sols pour cet après-midi. Donc là, je vais juste faire un point organisation pour cet après-midi. Donc en ce qui concerne cet après-midi, donc, vous avez reçu dans votre programme un petit flyer avec des infos pratiques sur le déroulement des ateliers, et aussi un plan pour vous rendre sur le site. Alors, il n'est plus très à jour parce qu'on a des soucis. Enfin, on a des soucis, non. Les TPG sont en grève aujourd'hui. Du coup, nous avons revu l'organisation. Donc, juste pour préciser aussi, sur votre étiquette, juste en dessous de votre nom, il y a une lettre qui indique le groupe dans lequel vous devrez vous rendre cet après-midi pour aller sur les ateliers de sol. Donc, juste à la fin du cycle de conférences, vers 12h45, donc vous allez, pour ceux qui sont inscrits pour cet après-midi et pour le repas, récupérer une lunchbox que nous vous invitons à manger soit sur le site d'EPIA, soit sur le site de Belle Idée. Et on vous attend sur le lieu de rendez-vous vers 14h30. Donc, pour rejoindre le lieu des balades de l'après-midi, vous pouvez vous déplacer donc en voiture ou en moto ou à vélo. Il y a des parkings sur place, comme vous pouvez le voir sur le plan tout en haut en bleu. Et pour ceux qui ont pris l'option transport en commun, qui n'était peut-être pas la meilleure option aujourd'hui, on vous invite donc à prendre le CEVA à la gare Cornavin aux horaires qui sont proposés. Je vous conseille de prendre dernier délai suite 13h32 parce qu'après sinon ça va vous faire arriver un peu en retard sur le site, sachant que quand vous arrivez à la gare du CEVA à l'arrêt Chênebourg, quand vous sortez de la gare, donc il faut sortir sur votre droite, donc en sens inverse du train, pour aller direction de l'avenue Bel Air. Et donc là, soit vous marchez 20 minutes à peu près pour vous rendre jusqu'au rendez-vous des vergers sur le site de Belle Idée. Ou alors, vous pouvez prendre l'arrêt de bus arrêt Gare Seva, c'est le bus 38. Alors, faites attention, il n'y en a que deux par heure. Donc, c'est pareil, faut pas se louper sur les horaires. Et voilà, sinon, il faut marcher 20 minutes. Et donc, on vous attendra au rendez-vous des vergers pour vous présenter le site, les experts des sols qui vous accompagneront toute cet après-midi à la découverte des sols forestiers, agricoles, chantiers, anthropisés. Donc voilà, et je vais passer la parole aussi à Michel Métias pour plus d'informations sur le site de Belle Idée.
Merci, bonjour. Je suis Michel Métias, le responsable des espaces verts pour les hôpitaux universitaires de Genève. Donc fait partie le site de Belle Idée sur lequel on va se rendre cet après-midi pour les ateliers. Je me permets de préciser un peu le contexte particulier du domaine de Belle Idée, qui est à la fois un domaine public et à la fois un domaine hospitalier psychiatrique. Donc il faut juste savoir que sur le domaine de Belle Idée, les patients ils sont libres de se promener à leur gré. Et parmi ces patients-là, on a des patients qui souffrent de problèmes psychiatriques et aussi notamment d'addictologie. Donc je vous demanderai simplement de ne pas répondre aux éventuelles provocations de certains patients. Ça arrive rarement, je vous rassure. Et surtout de ne pas leur donner... souvent, ils arrivent à demander un peu d'argent, un peu de cigarettes, ce genre de choses. Donc de simplement ne rien leur donner. Sinon, il n'y a pas de problème particulier. On vit très bien sur le site de Belle Idée. Mais voilà, il est probable que vous croisiez des patients qui souffrent de crise. Donc, vous en tenez simplement pas compte. Voilà. Sinon, ben, je me réjouis de vous accueillir sur le site de Belle Idée où on a préparé les balades et les différents ateliers. Je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à...
Merci. Oui, vraiment, merci beaucoup pour cette organisation, un tout petit peu chamboulée, mais vous avez une heure et demie, on peut le faire aussi à pied, hein, si jamais, avec votre petit cornet lunchbox. Voilà, non, on a misé, vous nous excuserez, on a misé sur cette solution pique-nique emportée, parce que ça permet d'avoir de l'agilité mobilité, vu la distance qu'il y avait entre Epia et Belle Idée. Donc, voilà, on n'avait évidemment pas anticipé la question des perturbations de transport public, mais on a vu que la variante SEVA, donc le RER, finalement marche assez bien. Voilà, on est sûr que vous arriverez tous en temps et en heure sur le site. Bien, on passe à la deuxième partie de cette matinée qui est, j'aimerais pas dire le revers de la médaille, mais un complément. Un complément bienvenu et important, et j'aimerais quand même rappeler ou préciser que c'est la cité elle-même qui est souvent à la demande de ces sols reconstitués dans le meilleur des cas, voire technosols, des sols recomposés, et parce que c'est la cité qui les a demandés, et qu'un certain nombre d'acteurs actifs, ici représentés, on est tous, en tout cas beaucoup d'entre nous dans cette salle, qui ont été amenés à proposer, à décrire, à réaliser... et à utiliser ces nombreux technosols qu'on aimerait et qu'on ne veut surtout pas confondre avec le sol agricole, le sol fertile, le sol dont on nous a présenté toute la valeur et l'importance en première partie. Mais donc on va laisser la parole à la représentante ou Laure Vidal, pardon, qui nous vient de aujourd'hui de Lyon, mais en réalité d'Angers. Qui est enseignante à Angers, à l'école d'ingénieurs, je la laisserai se présenter elle-même, mais qui vient ici porter un projet qui est mené par Plantécité depuis de nombreuses années sur cette question de la reconstitution, la refabrication, je ne sais pas si le terme est très beau, de sol avec différents intrants pour à la fois régler des questions de disponibilité de sol, à la fois également régler la question des ce qu'on appelle des déchets, qui peuvent être une manière de résoudre les problèmes de stockage. Je ne pense pas qu'il faut retenir que ça se résumer à ça, mais ça, Laure Vidal en parlera beaucoup mieux que moi. Ceci pour dire qu'il y a une étude qui est menée depuis longtemps. Laure Vidal fait partie d'un conseil scientifique de Plantécité. C'est pas venu de nulle part. C'est porté par les instances scientifiques et professionnels qui gravitent autour de Plantécité, qui sont partenaires de Plantécité. Et en cela, ça répond vraiment à une demande et une actualité, je dirais, liée à la ville, à la cité et à la végétalisation. J'aimerais aussi, dans la deuxième partie, qui nous sera proposée par une entreprise, pour avoir un retour d'expérience, l'application, l'opérationnel, ce qui se passe réellement sur le terrain. Et ça, je trouvais que c'était très important qu'on ne reste pas simplement dans la partie, on dirait, théorique, mais qu'il y a aussi la partie appliquée qui doit être source de retour d'expérience et de progression et d'amélioration s'il est nécessaire de le faire. Voilà, je vous laisse la parole. Laure, merci beaucoup de votre présence ici et à vous de jouer.
Bien, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis maître de conférence à l'Institut Agro Rennes-Angers, qui s'appelait avant Agro Campus Ouest. Enfin, on change de nom tous les 10 ans. Donc, c'est un peu quelquefois difficile à suivre. Et donc, aujourd'hui, je suis là pour parler au nom de Plantécité, puisque ce projet de construction de sol fertile à partir de déchets a été porté par Plantécité depuis 2011. Et je vais vous expliquer un petit peu la démarche pédagogique ou scientifique aussi qu'on a eue pour construire ce projet. Mais avant, au préalable, je vais quand même redonner, enfin resituer le contexte et certains éléments qui sont indispensables pour comprendre la démarche. Et donc j'ai un peu la pression parce que tout à l'heure, le livre qu'on a écrit a été un petit peu malmené. Donc je vais essayer de vous montrer que, voilà, on n'a quand même pas fait comme ça au doigt mouillé. Je remplace aussi Robin Dagua qui normalement est maintenant responsable de ce projet pour Planticité et qui ne peut pas être là aujourd'hui. Alors, de quoi est-ce qu'on est parti ? Du constat que les sols sont urbanisés, ça vous le savez, et qu'on parle d'artificialisation des sols, donc c'est-à-dire de changement d'usage des surfaces principalement agricoles, forestières, ou à l'état naturel, et donc on a une perte de ressources et un problème aussi pour la sécurité alimentaire. Il faut savoir qu'en France, le ministère de l'Agriculture vient de changer de nom et s'appelle ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Donc cette notion est vraiment très importante. Alors quand on regarde un petit peu ces surfaces artificialisées qui sont diverses, au dépend de quelles autres surfaces elles se sont développées, on voit que ce sont principalement les terres agricoles, donc en jaune sur le graphique, qui ont disparu pour permettre l'apparition de ces surfaces artificialisées. Donc ensuite, alors il faut savoir qu'en France, en fonction des méthodes que l'on utilise pour calculer la surface artificialisée, on est environ autour de 10% des terres de territoire métropolitain qui sont artificialisées. Et quand on regarde leur répartition, on voit qu'il y en a à peu près 16% qui sont occupés par des bâtiments. Ensuite, vous en avez 16% occupés par des parkings, 31% par les formes linéaires, donc la voirie, les infrastructures routières. Et puis, une trentaine de pourcents, ce sont des surfaces ouvertes et principalement végétalisées. Une étude européenne avait montré le schéma typique d'une zone pavillonnaire parce qu'effectivement, la consommation de terre se fait principalement par le besoin de chacun d'avoir sa maison avec son petit bout de jardin. Et sur ces zones pavillonnaires, on a 70% des espaces qui sont imperméabilisés. Alors, au niveau du territoire français, on a la chance d'avoir une cartographie des sols de tout le territoire à l'échelle du 250 millième. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail au niveau des zones urbaines, on voit des taches blanches et il y a écrit, tout en bas de la légende, « absence de sol ». Alors, ça voudrait dire qu'en ville, il n'y a pas de sol. Alors, bien sûr, ça n'est pas vrai. Et quand on regarde les sols en ville, on voit qu'il y a différents types de profils. Ce sont des sols qui sont très hétérogènes en profondeur et aussi spatialement, et avec donc en surface des paysages qui sont très divers. Et on peut avoir de la végétation qui se développe même sur des sols industriels, comme vous pouvez voir là sur le cinquième profil. Quand on s'intéresse à la formation des sols, donc vous savez que les sols sont issus de l'altération de matériaux rocheux, que l'on appelle le matériau parental. Et comme il a été dit tout à l'heure, la formation du sol est très très longue. On a une pédogénèse qui dure 100 ans, 1000 ans. Et il y a différents facteurs qui vont permettre cette pédogénèse, qui sont donc au départ la température, les éléments du climat, la pluie, l'alternance gel-dégel, qui vont permettre la fracturation de la roche, et puis après le pouvoir végétal, les organismes du sol qui vont permettre donc à ce matériau rocheux de devenir un sol. Mais il y a un nouveau facteur donc, qui est venu se rajouter à ces facteurs naturels, qui est le facteur anthropique. Et donc, ce facteur anthropique, a un impact très fort sur la formation du sol, et puis même sur les sols agricoles, on pourrait dire que finalement, l'homme aussi joue un rôle très fort et que souvent les sols sont anthropisés. Alors, quand on regarde ce que l'on peut trouver en ville, eh bien, on a des superpositions de matériaux terreux qui se sont faites au cours du temps. À Paris, on a trouvé des dépôts de plus de 10 mètres qui s'étaient rajoutés par rapport au sol naturel. À Lyon, on a des dépôts de l'ordre de 5 mètres par endroit. Et on voit bien les superpositions de couches, donc depuis l'époque romaine, par exemple ici à Angers. Et d'ailleurs, le fait de cette superposition ou cet ajout de matériaux, souvent, ça a été pour gagner des terres sur les cours d'eau. Donc ici, vous voyez une carte d'Angers de 1870. Et ans plus tard, il y a toute une partie sur la rivière Maine qui a été comblée par des remblais pour gagner de la surface pour l'urbanisation. Alors, tout à l'heure, on a parlé des fonctions des sols. Des fonctions des sols agricoles. Mais en ville aussi, on attend que les sols remplissent de nombreuses fonctions. Et effectivement, en fonction des gestionnaires de la ville, les fonctions attendues ne sont pas forcément les mêmes. Les gestionnaires des espaces végétalisés vont vouloir un support de végétation, de biomasse, afin de production de biomasse, support de biodiversité. L'ingénieur urbain, lui, va être concentré sur d'autres fonctions, de même que l'aménageur urbain. Eux, ils veulent mettre de la voirie, des bâtiments, faire passer des tuyaux. Bien. Donc, ça veut dire que, si on s'intéresse aux fonctions du sol qui sont représentées en bleu, ici, au milieu de cette espèce de fleur, qui sont des fonctions, donc puits de carbone, enfin, support de biomasse, etc. Et on a vu tout à l'heure que ces fonctions du sol permettaient de rendre un certain nombre de services écosystémiques, comme la régulation des flux hydriques, la régulation du climat, etc. en ville. Eh bien, pour arriver à ce que le sol remplisse toutes ces fonctions, il y a au milieu de la fleur les propriétés du sol. Et on va voir tout à l'heure que ces propriétés du sol, qui sont très nombreuses, on a besoin de s'y intéresser pour pouvoir arriver à réfléchir comment on pourrait donc construire des sols en ville. Alors, vous savez qu'il y a une forte demande de sols multifonctionnels pour la ville, d'autant plus maintenant avec la prise de conscience du fait qu'il fallait gérer les eaux pluviales pour limiter les inondations. Donc, en France, il y a un plan de gestion des eaux pluviales qui est sorti là, en novembre 2021, qui oblige à infiltrer les eaux à la parcelle. Il y a aussi le plan climat et résilience d'août 2021 qui oblige à renaturer la ville et aller vers le zéro artificialisation net. Donc, toutes ces lois vont permettre de répondre à la forte demande sociale et environnementale d'avoir plus de proximité de nature en ville, donc pour fournir tous les services écosystémiques qui sont attendus en lien avec les fonctions du sol. Donc, ça veut dire que les villes doivent développer leur stratégie de végétalisation et de renaturation, et que ce succès de végétalisation de la ville va dépendre donc de la qualité du sol. Et ça, jusqu'à maintenant, les aménageurs n'en étaient pas forcément conscients. On ramenait un peu de terre, on mettait un arbre, et il devait se débrouiller tout seul. Et souvent, avec une casse, les arbres, au bout de 5 ans, ils sont morts et il faut les remplacer. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument travailler sur ces fonctions du sol en milieu urbain. Mais vous savez tous qu'en milieu urbain, le continuum sol-plante-atmosphère que l'on peut avoir en milieu agricole ou en milieu forestier, il n'est pas du tout le même qu'en conditions naturelles. Puisque vous voyez sur la partie de droite, on a des sols qui sont très compactés, un volume limité pour les racines, donc plein de tuyaux qui passent dans le sol, des contraintes donc mécaniques liées au passage du trafic. Et on l'a dit tout à l'heure, une exportation de la matière organique qui ne retourne pas au sol et donc qui ne permet pas d'avoir ce cycle naturel entre le sol, la plante et l'atmosphère. En plus, quand on compare le milieu naturel et le milieu anthropisé, la ville, On a, concernant l'infiltration de l'eau, une très grosse différence, puisqu'on a un ruissellement qui est très fort en ville, de l'ordre de 55%. Et donc, ça veut dire que la quantité d'eau qui va être disponible pour les racines, pour le développement des végétaux, va être très réduite. C'est ce qui pose un énorme problème. Alors, donc on a des sols peu fertiles et qui rendent moins de services écosystémiques. Et donc, voilà ce que l'on peut trouver. Hein, donc, des pieds d'arbres très, très entourés, hein, on va dire, où l'eau ne risque pas de s'infiltrer. Et donc, des racines qui vont essayer de trouver de l'eau où elles peuvent. Donc, souvent, on va retrouver un développement en sous-surface parce qu'il y a un peu d'eau, quelquefois, qui peut s'infiltrer au niveau lorsqu'on a dû stabiliser, ou alors le long des tuyaux d'évacuation d'eau usée, par exemple, où les racines sont principalement là, ou, par exemple, dessiner un schéma de racines à la surface du sol. En haut, là, ce sont deux photos qui ont été prises dans une cour d'école où c'était des arbres qui avaient 30 ans, des acernegundo qui se développaient très, très mal. Et en regardant un petit peu ce qui se passait au niveau racinaire, ben, finalement, les racines n'étaient pas sorties de la petite fosse de plantation et elles avaient même formé un chignon, comme on peut voir. Elles avaient formé un chignon, elles avaient tourné dans leur fosse de plantation. Et une étude qui avait été menée au début des années 2000 dans différentes villes européennes a montré que les taux de remplacement de plantations nouvelles, quand on comparait les arbres plantés sur un alignement ou dans un parc, au bout de 2 ans, étaient de l'ordre de 10%, et voire jusqu'à 22% au bout de 10 ans au Danemark. Ce qui représente quand même un coût relativement important quand on connaît le prix de la plantation d'un arbre d'alignement. Alors, du coup, où est-ce qu'on en est actuellement en termes de contexte réglementaire et de pratique sur la mise en place ou la gestion des sols urbains? Donc, en France, tout est codifié dans le cadre du CCTP, qui est le cahier des clauses techniques particulières, où la maîtrise d'œuvre va expliquer quels sont les attendus pour le sol que l'on veut mettre en place en ville. Donc, il existe un certain nombre de documents techniques. Donc, le fascicule 35, qui est spécifique à l'aménagement paysager, qui explique ce qu'est la terre végétale. Ensuite, vous avez des normes AFNOR qui donnent la définition de ce qu'est un suppend de culture ou un amendement organique, donc qui sont des documents qui sont réglementaires et qu'il faut utiliser. Et puis, il y a l'Union nationale des entreprises du paysage qui a mis en place des règles professionnelles pour les travaux des sols et supports de paysage, qui est un guide qui est assez suivi par les entreprises de paysage. Et donc, ils ont proposé ce petit logigramme, vous voyez, qui se trouve ici, où on va, pour un projet de paysage, donc de mise en place de terre, regarder dans quelle situation on se trouve. Est-ce qu'il y a du terrassement à faire ou pas? Et donc, s'il n'y a pas de terrassement, l'idée, c'est d'aller faire un diagnostic et des analyses du sol en place. Et en fonction de l'aménagement qui est souhaité, on va regarder si la qualité de la terre est compatible avec ce que l'on veut faire. Et à ce moment-là, si c'est oui, on va pouvoir choisir la palette végétale adaptée. Si ce n'est pas le cas, on va regarder comment il est possible d'améliorer la qualité du sol en place. Donc ça, c'est dans la théorie ce qu'il faudrait faire. Bon, souvent, les entreprises, elles ne veulent pas se casser la tête parce que la terre ne répond pas exactement aux recommandations du CCTP. Et pour ne pas prendre de risque, si jamais il y a de la casse de végétaux après derrière, souvent on va évacuer la terre et se mettre systématiquement dans la deuxième situation, faire comme s'il y avait du terrassement. Et à ce moment-là, on va toujours faire un diagnostic des sols en place, mais on va dire, finalement, la terre, elle n'est pas si bonne que ça. Et on va l'évacuer, on va faire autre chose. Ou alors, Dans la situation où l'on est actuellement dans les projets de désimperméabilisation des sols urbains, donc en France, il y a une très grande vague de désimperméabilisation dans les cours d'école ou dans les villes pour, parce qu'on densifie la ville, mais parce qu'on essaye aussi de renaturer la ville. Donc là, ça veut dire qu'il faut trouver de la terre et qu'il faut ramener de la terre de l'extérieur de la ville. Et en France, ça devient un gros problème. Aller chercher de la terre à 70 ou 80 km de la ville, ce n'est pas du tout durable. Il y a trop de coûts de transport. Donc, il faut absolument essayer de faire avec les matériaux que l'on a sur place. Donc, dans le cas où on essaye de valoriser le sol en place en rapportant des amendements naturels, des matériaux pédologiques ou des composts, on va dire qu'on fait un anthroposol reconstitué, donc avec des matériaux pédologiques. Et dans le cas où on se dit, on ne peut pas utiliser la terre qui est en place, alors aussi parce qu'elle peut être polluée, on va faire ce que l'on appelle un anthroposol construit. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va l'appeler comme ceci, si on considère qu'il y a 20% de matériaux technologiques, donc de matériaux rapportés par l'homme, et dans la classification internationale, on va parler de technosol. Donc au moins 20% d'artefacts. Alors, où est-ce qu'on en est dans les pratiques contemporaines pour la construction de sol en ville? Ici, vous avez l'exemple de la Cité internationale qui a été à Lyon, qui a été construite en 1994, où des milliers de mètres cubes de terre et de gravier et de compost ont été mélangés pour reconstituer tous les aménagements que vous avez le long des berges du Rhône. Donc, ça a été un très, très gros chantier avec des plantations d'arbres. Donc ici, on avait fait des fosses pédologiques en 1998 et une nouvelle fosse a été faite en 2012. Et on voit que ces sols qui ont été complètement construits par superposition de raisons, de matériaux terreux mélangés, donc là, on était sur des sols reconstitués qu'avec de la terre prélevée dans des parcelles agricoles, ça a bien fonctionné, et les horizons se sont bien différenciés et les végétaux ont bien poussé. Mais le problème, c'est qu'on utilise de la terre non renouvelable, ce qui pose des problèmes donc pour la sécurité alimentaire. Alors actuellement, un projet plus récent qui a été réalisé en 2018 à Angers avec le réaménagement complet d'une allée de 600 mètres où il y avait des trèves platanes qui avaient été plantées à la fin du 19e siècle mais qui étaient malades, qu'il fallait enlever. Ils ne se sont même pas posé la question, est-ce que je peux réutiliser les sols qui sont en place? Ils ont tout enlevé, tout décapé et ramené de la terre agricole. Alors, en France, pour les arbres d'alignement, on a développé une technique au début des années 90 qui s'appelle le mélange terre-pierre, où l'idée, c'est de construire un matériau squelette qui est capable de résister à des contraintes mécaniques, où on va mettre 2/3 de pierre d'assez grosse granulométrie, à peu près entre 40 et 90 mm, et on va mélanger avec de la terre qui va venir se mettre entre les interstices du matériau squelette pour assurer donc une portance de l'ordre de 50 mégapascales, mais qui va permettre aux racines de se développer entre les blocs de terre. Mais on est toujours dans ce problème de consommation de terre. Alors, notre idée, dans le cadre du programme CITER, ça a été de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des matériaux alternatifs à la terre agricole, terre végétale, sachant qu'actuellement, le métabolisme de la ville, c'est un métabolisme linéaire, où vous avez des matériaux qui rentrent dans la ville et des déchets qui en sortent. Donc à peu près, c'est des chiffres de 2018, 780 millions de tonnes de matériaux, tous matériaux confondus, qui rentrent dans la ville et 342 millions de tonnes qui sortent. Et il y en a une partie qui est recyclée, mais il en reste encore 28% à recycler et qui, pour l'instant, partent soit en décharge, soit en incinération. Donc, l'idée, c'est d'aller vers un métabolisme plus circulaire. Et donc, c'est Enfin, il y a eu des essais déjà qui ont été faits de mise en place de génie pédologique pour reconstituer des sols dans des sites dégradés. Donc là, c'est nos collègues de l'Université de Lorraine qui ont construit des sols fertiles avec des déchets utilisaient donc des boues papetières, la terre d'un site, une ancienne coquerie qui était complètement polluée, qui a été traitée thermiquement, et puis avec du compost de déchets verts. Donc les sols ont été mis en place en octobre 2017, et vous voyez, en mai 2019, on a une prairie avec une prairie extensive avec un très bon rendement. Ils ont regardé au bout de 10 ans comment le sol qui avait été mis en place avait évolué, et on voit qu'on a une pédogénèse qui est très rapide avec une différenciation d'horizon, et au bout de 10 ans, on a l'impression d'avoir affaire à un sol qui se rapproche d'un sol pseudo-naturel. Alors, tout à l'heure, il a été dit, mais construire des sols ou ramener des choses dans les sols, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ça s'est déjà fait, effectivement. Alors, moi, je parle pour la ville. En contexte urbain, un exemple un peu emblématique, c'est la construction du potager du roi à Versailles, où, c'était des marais, et des matériaux terreux ont été ramenés, criblés, pour construire le potager. De la même manière, ici vous avez la construction de sol à Central Park, où on avait donc une décharge pareil marécageuse, et il y a eu de gros apports de terre pour planter jusqu'à 500 000 arbres. Bon, donc vous voyez, ces techniques de construction ou de reconstitution de sol, elles sont assez anciennes. Notre idée, c'était d'utiliser le génie pédologique pour construire des sols fertiles avec donc différentes fonctions, donc pas uniquement pour produire de la biomasse, mais bien pour remplir différentes fonctions au niveau de ces sols, en utilisant des matériaux alternatifs. Voir comment on pouvait mettre en place un procédé de construction de sol. Donc ce projet a été financé entièrement par l'ADEME à hauteur de 1,5 million, et on a travaillé pendant 5 ans sur ce projet. Donc on part de matériaux de déchets, et on réfléchit à quels horizons on met en place pour aboutir à un sol fonctionnel. Les déchets que l'on a utilisés. Alors, on est parti du catalogue européen des déchets qui comporte plus de 860 déchets, et on en a sélectionné quelques-uns. On a éliminé, bien sûr, tout ce qui était trop dangereux. Et on est parti aussi sur des matériaux qu'on retrouvait de façon sur tout le territoire français en grande quantité aussi. Voilà. Donc, des matériaux minéraux avec des bétons de démolition, des ballasts, des briques, de la terre excavée, et puis des déchets organiques, déchets verts non compostés, et puis des bouts de papeterie, des bouts de station d'épuration et des composts. Alors, après, la question qui se posait, c'est comment on fait les mélanges entre tous ces matériaux. Il y avait possibilité de faire 55 mélanges binaires, 165 ternaires. Donc, bien sûr, on a fait des choix. Et on a finalement, avec différents ratios, testé 75 mélanges au laboratoire. Et on a sélectionné les propriétés agronomiques qui nous paraissaient les plus pertinentes pour traduire la fertilité de nos matériaux. Donc principalement des propriétés teneur en carbone, en azote, capacité d'échange cationique, le phosphore Olsen, le pH, le calcaire actif, puis des propriétés plus physiques comme la masse volumique apparente et la teneur en eau. Donc on a modélisé tout ça, et en fonction des différents ratios, on a vu que sur les différents mélanges, on était en capacité, avec des courbes dose-réponse, de traduire les propriétés des mélanges à partir, en connaissant les propriétés initiales des matériaux. Donc, certaines propriétés ont pu être modélisées par des courbes de régression, comme la teneur en carbone total, phosphore-Olsen et la capacité d'échange cationique. Pour les autres, notamment le pH, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on a utilisé des modèles mathématiques pour arriver à traduire cela. Et on a testé donc, ces équations sur 516 mélanges. Bon. Donc, finalement, tout ça pour se dire ensuite. Ok, on arrive à modéliser les propriétés de nos matériaux, mais comment est-ce qu'on va les mettre en place? Donc, quel design de profil on va donner et pour quels usages, hein, puisqu'on ne va pas avoir les mêmes besoins pour tous les usages. Donc, on s'est dit, ben voilà, par exemple, pour de l'accompagnement de voirie, des sols de tramway ou des toitures terrasses extensives, on a besoin d'un sol pas très profond avec juste un horizon de croissance. Alors que si on veut mettre eh bien, des arbustes, des arbres, eh bien, là, il faut construire un sol un peu plus compliqué avec deux horizons, un horizon de croissance sur un horizon plus technique, capable de qu'il ne soit pas imperméable, que l'eau puisse circuler, mais aussi capable de retenir un peu d'eau en période estivale. Et il y a le cas particulier des arbres d'alignement où là, les sols sont plantés plutôt en fosse et où on veut un horizon technique autour de la mode de plantation dans un horizon squelette. Voilà. Alors, si on revient à la roue que je vous ai montrée tout à l'heure, où au milieu, donc, on a les propriétés du sol. Donc, vous voyez, il y a quelques propriétés du sol qui sont listées, mais alors des propriétés du sol, il y en a plus de 200. Donc, nous, pour tous les matériaux, on a étudié toutes les propriétés, mais après, pour pouvoir tester nos mélanges dans des lisimètres, il a fallu qu'on fasse des choix. Et on s'est, dans le cadre du programme CITER, on s'est dit, voilà, pour chaque type d'horizon, l'horizon de croissance, l'horizon technique, l'horizon squelette, quels sont les attendus pour chacune des propriétés, donc on les a notées de 0 à 3, en fonction du type d'usage envisagé et du type d'horizon. Et on voit bien que pour l'horizon de croissance, eh bien, on va attendre des bonnes notes sur quasiment l'ensemble des propriétés, alors que pour l'horizon squelette, eh bien, on a sur les propriétés chimiques, finalement, on attend des moins bonnes notes. Donc à partir de là, eh bien, on a défini des gammes de valeurs de chaque paramètre donc, qui sont définies dans le livre. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé certains mélanges pour essayer d'évaluer la fertilité des sols que l'on a construits. Donc on a fait un premier essai sur le site du GIFSI à côté de Nancy, où là on avait des lisimètres qui étaient assez profonds, hein, qui faisaient 2 mètres, et vous avez tout un dispositif qui permet de collecter les eaux, de faire après des mesures en termes de pollution, etc. Et on a testé un horizon de croissance constitué de briques compost, soit sur un horizon technique avec ballast boue papetière, ou soit pour un horizon squelette constitué de terre excavée, de déchets de béton et de déchets verts. Et au bout de 2 ans, eh bien, on a tout démonté et on a regardé les profils racinaires. Donc ça avait très bien fonctionné, vous voyez, sur le mélange de droite. Sur le mélange de gauche, ça n'a pas fonctionné parce que, en fait, le matériau a été compacté au moment de la mise en place, il était humide et donc les racines, elles n'ont pas voulu y aller. On avait une masse volumique apparente supérieure à 1,6 g par centimètre cube et donc les racines ne pouvaient plus pousser. Voilà, donc on a bien une densité racinaire élevée, une production de biomasse dans le profil en tout cas de droite. Et ce qui nous intéressait aussi, c'était de regarder le phosphore Olsen, parce que vous savez que les gisements de phosphore, enfin de phosphate au niveau mondial sont quasiment épuisés, et donc, mais que c'est un élément indispensable pour le développement du végétal. Et on a pu montrer que dans ces matériaux, dans ces déchets, on avait une ressource de phosphore qui était très intéressante. Alors, on a mis un autre site expérimental en place à Angers, où là, on a testé uniquement le mélange terre-pierre en comparant donc deux mélanges terre excavée, ballast boue de steppe et puis terre excavée, déchets du bâtiment, déchets verts, avec un mélange témoin de la ville d'Angers. Donc, on a regardé le développement, on avait mis en place des acers platanoïdes et on a regardé le développement des arbres pendant 3 ans et on a vu qu'on avait une très bonne production de parties aériennes et de parties racinaires. Bon, on était un peu déçus parce que notre témoin, il n'était pas terrible, le pH était très faible et on n'a pas compris pourquoi. Alors, pour terminer sur cette première partie de programme CITER, ensuite, on s'est posé la question quand même, ok, utiliser des déchets pour construire des sols, ça peut être intéressant, mais qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue innocuité, environnemental et sanitaire? Donc, on a dosé les éléments traces dans les mélanges et on a constaté finalement que les concentrations étaient assez peu élevées dans les matériaux initiaux qu'on avait et dans les mélanges qu'on avait testés et que les valeurs obtenues étaient souvent inférieures à celles fixées par la norme NFU 4451 sur les supports de culture. Ensuite, on a fait des essais de percolation en colonne au laboratoire et on a constaté qu'aucun déchet et mélange avait des teneurs problématiques sur les métaux, alors sauf après sur certains éléments et notamment un problème de sulfate au niveau des briques, mais ça c'est lié à la méthode de fabrication. Ensuite, il y a eu une évaluation écotoxicologique pour les systèmes aquatiques et terrestres. Donc, pour que les systèmes soient compatibles écotoxicologiquement, il aurait fallu que les valeurs rentrent toutes ici dans le petit polygone rouge. Bon, ce qui n'était pas le cas pour le brick compost, notamment pour ce qui concerne l'écosystème terrestre, parce que les vers de terre, ça leur a pas plu, les matériaux grossiers. On les a pas broyés comme dans le test, il est prévu de travailler sur des matériaux très fins, inférieurs à 2 mm. Nous, on est restés sur nos matériaux initiaux. Donc, les vers de terre, ils n'ont pas voulu y aller. Et l'orge et le cresson, ils n'ont pas voulu pousser non plus. Donc, c'est plus un problème de méthode qui n'est pas adaptée, finalement, à ce type de matériaux. Et pour les écosystèmes aquatiques, les résultats étaient bons. Et et pour le mélange terre excavée, béton, déchets verts, les seuls problèmes, c'était pour la croissance de l'orge et du cresson. Alors ensuite, pour terminer, on a fait une évaluation quantitative des risques sanitaires en regardant quels étaient les risques pour les gens qui allaient manipuler la terre, que ce soit le promeneur enfant, le promeneur adulte ou l'agent d'entretien. On a maximisé les scénarios parce qu'on a considéré que les personnes étaient au contact 365 jours par an avec ces mélanges. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait peu ou pas de risque pour les usagers. Quelquefois, on a eu quand même un dépassement pour le chrome ou l'arsenic. Mais c'est à relativiser parce qu'en milieu urbain, vous avez des fonds géochimiques avec des teneurs en chrome ou en arsenic naturel qui sont très élevés. Voilà. Donc, dans le cadre de ce programme, on a développé une version alpha d'un outil multicritère d'aide à la décision pour aider les gens qui possèdent des déchets ou les collectivités qui auraient des déchets à valoriser à savoir comment mélanger de façon la plus pertinente possible les matériaux en fonction de l'usage qui est envisagé. Donc cet outil n'est pas terminé, je vais vous expliquer juste après ce qu'on va faire. Et dans cette version alpha, on a aussi regardé comment les mélanges de matériaux, on allait les faire. Effectivement, on a réfléchi à l'idée qu'il fallait stocker ces matériaux pendant quelques mois avant de les mettre en place parce que finalement c'est des matériaux qui sont complètement déstructurés, il n'y a pas d'agrégat, donc pour qu'il y ait un temps d'organisation des matériaux entre eux et ensuite une mise en place après cette période de maturation. On a aussi essayé de comparer des coûts de cette nouvelle filière de construction de sol par rapport à la filière traditionnelle. Donc, vous voyez, pour un horizon de croissance en filière traditionnelle, en France, on est entre 23 et 30 euros du mètre cube. avec ce que l'on propose, nous, on serait plutôt entre 5 et 10 euros du mètre cube. Et pour l'horizon squelette, eh bien, à Paris, on est jusqu'à 70 euros du mètre cube pour un horizon squelette, hein, parce qu'il faut intervenir dans la ville, c'est compliqué. Et nous, on serait plutôt autour de 15 euros. En fait. Alors, donc, on a écrit un livre qui s'appelle « Créer des sols fertiles ». Ce livre, effectivement, il n'est pas abouti. Mais on s'est dit, si on ne le publie pas en 2016, alors qu'on avait déjà des pistes, des résultats, c'est dommage parce qu'il y a quand même des éléments de réflexion. Alors après, tout dépend de la façon dont on l'interprète et dont on le lit. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Je dépasse peut-être le temps, non ? Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. J'essaie. Alors, où en est-on ? Donc, actuellement, il y a une directive cadre sur les déchets qui encadre la valorisation des matériaux et qui incite très clairement à la valorisation des déchets, mais sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement. Donc, le CEREMA a travaillé là-dessus en proposant donc un guide sur l'acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en technique routière. Bon, c'est sous la voirie, sous le revêtement de sol, donc ça pose moins de problèmes. Mais il y a des guides méthodologiques qui se sont mis en place pour la valorisation des matériaux et notamment pour la valorisation hors site des terres excavées, qu'elles proviennent de sites pollués ou de sites non pollués. Donc ces documents sont disponibles en ligne, hein, vous pouvez les trouver. Ils sont édités par le BRGM. Et donc il y a une approche à la fois nationale de ces guides, une approche régionale ou urbaine, et une approche au cas par cas. Donc là, moi, je vous ai mis le tableau qui concerne surtout les matériaux, enfin les terres excavées non polluées, où on veut un maintien de toute façon de la qualité du sol qui va être le site récepteur. Il n'est pas question de ramener de la terre sur un site qui a des propriétés agronomiques pour aller diminuer ses propriétés agronomiques. Et puis, il faut absolument préserver la ressource en eau et la gestion de la ressource en eau. Alors, il y a des outils dédiés qui permettent d'avoir une traçabilité du mouvement de ces terres excavées et de conserver une mémoire de leur utilisation, d'où elles partent, où on les envoie, où on les utilise. Et donc, c'est le programme, enfin le système Terrasse qui permet de, on va dire, concentrer toutes les informations. Il y a des guides pratiques. Alors, ces guides pratiques, ils sont présents, mais ils sont incomplets pour l'instant parce qu'ils n'introduisent pas assez d'éléments sur l'ingénierie pédologique et la construction de sols avec des matériaux alternatifs. Et il y a des guides qui sont envisagés sur la valorisation en aménagement des sédiments, mais aussi de la terre végétale. Alors, où est-ce qu'on en est, nous, dans Citer ? Ben, on voit qu'il n'y a pas d'encadrement spécifique pour l'instant dédié à la construction de sols à partir de matériaux valorisables. Et nous, depuis le départ, on voulait mettre en place Citer 2. Alors, je vous passe toutes les péripéties administratives pour arriver à trouver des financements et résoudre des problèmes entre les ministères, l'ADEME, le BRGM, enfin bref. Et donc, le projet CITER démarre là, cet automne 2022 jusqu'en 2025, avec comme porteur Plantes et Cités, toujours un financement ADEME, mais pas du tout du même niveau que celui qu'on a pu avoir en 2011, avec comme partenaire uniquement des instituts ou des universités de recherche, l'Université de Lorraine, donc l'Institut Agro, l'Université Gustave Eiffel, le BRGM, et puis aussi l'Union des entreprises de paysage. Donc, on a défini différentes tâches et une des tâches vraiment principales, c'est d'essayer de finaliser l'outil d'aide à la décision Et pour cela, on a besoin, parce qu'à la fin du programme CITER, on était allé voir le ministère de l'écologie et de l'agriculture pour leur dire, bon ben voilà, on a bien avancé, etc. Ils nous ont dit, oui, c'est bien beau, mais vous avez travaillé en lisimètre, il faut absolument travailler sur des sites pilotes pour nous prouver qu'il n'y a vraiment aucun risque sanitaire et environnemental. Donc, on a commencé, même si on n'avait pas tout à fait le financement, par étudier un petit peu ce qui se faisait ou ce qui s'était fait depuis 2016 en termes de construction de sol. On a mené une enquête par le biais de Plantécité auprès de tous les adhérents, et il y a 12 structures qui ont répondu sur 16 projets de construction de sol. On leur a demandé quelles étaient leurs motivations pour faire ce type de projet. Et on voit que l'initiative... souvent, c'était une initiative de la collectivité. Certaines sont plus sensibilisées que d'autres à ces problématiques de ne plus utiliser de terres agricoles, et que c'était souvent des projets d'économie circulaire. On leur a demandé aussi quelles fonctions ils recherchaient par le biais donc de la construction de ces sols pour ce type de projet. Et bon, on s'en doutait un petit peu, la priorité une, c'est l'infiltration de l'eau, c'est-à-dire gérer les risques d'inondation en ville et infiltrer le plus possible l'eau, parce que souvent les réseaux d'évacuation d'eau pluviale ne sont pas dimensionnés. Maintenant, on a des retours de pluie centennale et les tuyaux ne sont pas capables de les gérer correctement. Et la deuxième priorité, autre priorité, c'était aussi d'avoir un habitat support de biodiversité. Alors, quand on leur a demandé quels étaient les matériaux parentaux qu'ils utilisaient pour construire des sols fertiles, eh bien, sans surprise, c'est les terres de déblais excavées, non contaminées, puisque il y a le guide qui existe actuellement, il porte sur ces matériaux-là, et le compost de déchets verts ou de biodéchets qui sont des produits, donc qui ne sont pas des déchets, qui sont faciles à utiliser. Voilà, donc pour terminer, et bien sûr, la mise en place d'une filière de construction de sol fertile, c'est l'objectif qu'on essaye de se donner, enfin c'est aller vers cette filière de construction dans le cadre de CITER 2. Donc construire des sols avec des matériaux alternatifs, ça ne peut se faire que si les acteurs sont demandeurs, que les ministères en charge de la thématique, donc l'agriculture et l'écologie, sont favorables. Il nous faut mettre en place un groupe de travail et compléter, conforter toutes les données qu'on a déjà acquises avec la mise en place de sites pilotes. Et il nous faut donc finaliser les outils d'aide à la décision. Et il y a des actions conjointes qui sont à mener sur les sols urbains pour améliorer toujours la connaissance sur les sols par les activités de recherche, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, comme on a dit tout à l'heure, sur la biodiversité des sols urbains, sur la désimperméabilisation, qu'est-ce qui se passe quand on enlève les revêtements de sol. Et puis, il faut agir et sensibiliser sur les enjeux de préservation des sols. Donc, vous pouvez aller regarder un site qui s'appelle Urbasol, qu'on a mis en place dans le cadre d'un projet sur les sols urbains, projet d'aménagement, où vous avez tout un tas de documents qui sont à disposition. Là, je vous ai mis des références biblio et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Laure. Je suis désolé pour mes excuses auprès de l'Assemblée, je n'ai pas vu le temps passer, c'est vrai, comme vous m'avez posé la question. Candidement, j'ai dit, allez-y, c'est vrai qu'on a un peu débordé. Et du coup, je passe sans attendre la parole à l'entreprise Landify. En fait, c'est une entreprise qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est dans l'opérationnel, dans la reconstitution, la fabrication, la mise en place de sols, et ceci pas de... Ça date pas d'aujourd'hui. Il y a une expérience derrière, l'expérience d'une la maison mère qui est en France, qui s'appelle le groupe ECT, dont vous allez, Monsieur Tillier, nous parler maintenant. Merci beaucoup. Et désolé pour le retard.
D'accord, merci. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Donc effectivement, au sein du groupe ECT, j'occupe des fonctions de directeur de recherche et développement, et au sein de la société Landify, qui est sa filiale en Suisse basée à Genève, je suis directeur technique et gérant. Par avance, je présente mes excuses aux pédologues qui sont présents parmi nous. Je suis géologue de formation, et donc moi, tout ce qui a moins d'un million d'années, ça ne m'intéressait pas auparavant, mais je progresse. Alors, pour commencer, je vais vous contextualiser le sujet de cette présentation. Il s'agit de parler de notre expérience en France. Donc, évidemment, il y aura des différences par rapport au contexte genevois, sur lequel je reviendrai au cours de la présentation. Donc, pour répondre déjà à la question de base, aujourd'hui, où va la Terre ? Il faut se poser avant toute chose la question de se demander ce qu'elles sont. C'est très important. Pour cela, deux notions clés, la traçabilité et la qualité. Déjà, rapidement, quelques définitions. Que sont pour nous les terres, ce qu'on appelle les terres excavées, ce sont des terres inertes, et pour nous, ce sont des matériaux nobles. Important, ce n'était pas toujours un sol, évidemment. Les terres inertes que l'on reçoit sur les installations d'accueil de ces terres ne peuvent pas recevoir de matériaux non inertes. Donc, par conséquent, dès lors qu'il y a de la matière organique, de la végétation ou des racines, ce ne sont plus des terres inertes, donc elles ne sont pas autorisées. Les seuls sols que l'on va recevoir, ce seront des sols anthropisés, donc typiquement des sols type Remblai, des sols urbanisés, exemple de pollution, mais en tout cas exemple de toute matière organique. Cette fraction est extrêmement marginale. L'essentiel des terrassements, évidemment, sont faits en profondeur, sur 3 mètres pour un premier niveau de sous-sol, 6 mètres, 9 mètres, 12 mètres, en fonction du nombre d'étages en souterrain qui sont creusés. Et donc, on voit bien que la grosse majorité des matériaux que l'on reçoit sont des horizons géologiques naturels en place, ou parfois des terrains anthropisés, mais profonds. Alors, cette notion de traçabilité et qualité passe par une première étape de qualification de la filière de traitement. C'est-à-dire que sur le chantier, on doit se poser la question de la qualité des sols. Quand je dis qualité, c'est pollué ou non pollué. Lorsque les terres sont considérées comme inertes, donc dénuées de toute trace de pollution et d'éléments susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'environnement par dissolution, par dégradation, etc., ces matériaux sont valorisés et réutilisés dans le cadre de projets d'aménagement qui sont réalisés en concertation avec les partenaires publics ou privés qui nous accompagnent. Donc, ce sont les collectivités ou des partenaires lambda. Et à ce moment-là, ces projets d'aménagement prennent la forme de fermes urbaines, de centres équestres, de golfs, de parcs, de forêts, de fermes photovoltaïques et de tout autre type d'aménagement qu'on peut imaginer fabriquer avec des terres. Et sur ces chantiers d'origine, de terrassement, donc, lorsque les terres sont polluées ou présentent d'autres caractéristiques, elles sont évacuées vers des filières de traitement appropriées. Alors, un point important sur la notion de statut de déchet. Effectivement, moi qui vous parle là, j'ai été régulièrement en réunion publique avec des riverains, avec des élus. Dès l'instant que vous prononcez le mot déchet, vous avez des hurlements en face de vous et c'est un vrai problème. C'est un problème de communication. Les gens associent le mot déchet au mot poubelle. Ce n'est pas le cas. Le déchet, dans la définition légale, en tout cas en France, mais qui est tirée du code de l'Union européenne, c'est que c'est le produit fini d'une chaîne de production. Ce que je veux dire, c'est que le statut de déchet est en soi une très bonne chose sur le fond pour la Terre, parce qu'elle oblige les acteurs que nous sommes et dans toute la chaîne à avoir une traçabilité et à avoir des règles de fonctionnement. Là où il n'y a pas de statut de déchet, c'est le Far West et la Terre va n'importe où, dans n'importe quelles conditions, aller stocker n'importe comment, et que ce soit une Terre inerte ou non inerte. Grosso modo, sans rentrer dans le détail, le fait que la Terre soit un déchet nous oblige à avoir des contrôles dès l'étape du chantier, donc pour caractériser ces différents matériaux, à avoir une traçabilité parfaite depuis l'origine, le producteur, donc qui est le propriétaire du chantier d'origine, quelle activité il y a eu sur ce terrain-là, qui a transporté la terre d'un point A à un point B, quand est-ce qu'il a été reçu. Il y a des contrôles qui sont réalisés à la réception du matériau et des nouveaux contrôles qui sont réalisés sur le site même au moment du déchargement et du régalage. Tout cela est enregistré dans un registre tenu par l'entreprise. Et la nouveauté de la loi AGEC, qui est relativement récente, c'est que maintenant, ces informations-là sont transmises directement à un registre national des terres excavées. Donc, cette activité permet de produire des aménagements à vocation environnementale ou d'usage qui vont venir servir les territoires. C'est sa vocation première. L'idée est de pouvoir créer ces aménagements en se servant de manière opportune des terres excavées qui génèrent une économie, et je reviendrai dessus un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, cette activité, ce fait de bouger les terres d'un point A à un point B et de les réutiliser de façon intelligente, permet de répondre aux aspirations sociétales actuelles que sont le besoin de verre en ville, de végétalisation, d'îlots de fraîcheur, de plus en plus important, biodiversité, non-artificialisation des sols, bien évidemment, sport en ville, santé, détente, agriculture de proximité et même énergie verte. Et vous avez ici donc quelques exemples de réalisations. Vous voyez que c'est vallonné, c'est pas pour rien. Tout le relief, c'est des terres excavées qui ont été amenées à cet endroit-là. Alors, pour en venir maintenant à la question du sol en soi, évidemment, il faut qu'on regarde, nous, ce que l'on regarde, nous, en tout cas, au sein de CET, c'est la question du sol sur les sites d'accueil, puisque la question du sol sur le site d'excavation, la question a été posée en amont de notre activité. Donc, sur les sites d'accueil, la priorité est bien évidemment la préservation des sols. Donc, il faut se poser la question initiale, quelle est la situation actuelle à l'initiale de ces sols sur les sites d'accueil de ces terres. On fait donc intervenir des écologues qui vont, en phase amont des projets, venir faire un diagnostic d'état du site d'accueil des sols. On va donc regarder l'état, la nature et la qualité. Et si le sol est en bon état et dont la nature répond, on va dire, aux besoins d'usage de l'aménagement futur, évidemment, le sol est réutilisé après une opération de décapage, de stockage provisoire, de remise en place et de végétalisation. On peut évidemment déjà à ce stade se poser la question, est-ce qu'un sol décapé, stocké, puis renappé n'est pas déjà en soi un technosol ? Ça, je laisse les spécialistes se prononcer sur ce sujet-là. Si le sol est en mauvais état, on va donc reconstituer un sol grâce à un technosol. À savoir évidemment que le terme technosol fait lui-même débat. Ce n'est pas une prise de position de ma part de parler de technosol ici. C'était dans le sujet des échanges que nous avons avec M. Amos. En France, vous en avez parlé de technosol, d'anthroposol, de sol reconstitué, de sol artificiel. Voilà, donc ça, je laisse les spécialistes trancher. Juste, voilà, sachez que pour moi, un technosol, c'est un sol que j'ai refabriqué au besoin. Alors, pour répondre à la question qui était dans le titre de ma présentation, les technosols sont-ils des sols d'avenir ? En ce qui nous concerne, à l'évidence, la réponse est oui, mais évidemment quand c'est nécessaire. Et j'apporterai même une nouvelle nuance, le contexte en région parisienne n'est pas du tout le même qu'à Genève. Aujourd'hui à Paris, cela a été cité par Mme Vidal-Baudet, lorsque la ville de Paris veut végétaliser un rond-point, elle fait venir des terres végétales qui sont décapées dans des champs à parfois plus de 100 km. Ce n'est pas le problème de Genève, a priori. Si vous avez besoin de terres végétales, vous la trouvez pas très très loin du cœur urbain. Donc il y a bien une notion de contexte à avoir. Donc là, je vous parle dans le contexte francilien. Et pour rester également dans la continuité des propos de François Fulman et puis la question posée par Éric Amos en début de cette conférence, il faut rester humble, effectivement. Nous ne prétendons en aucun cas être en train de faire mieux ou même pareil que ce que fait la nature en 6000 ans, en quelques heures. Ce n'est absolument pas mon propos. Mais ce que l'on cherche, c'est apporter une solution pragmatique à un problème local donné qui peut prendre la forme d'une pénurie d'une matière dont on a besoin à un moment pour végétaliser ou d'une mauvaise qualité de celle-ci. Alors, comment contribue-t-on à la préservation des sols ? Quand on est dans le cadre évidemment d'un technosol, je fais abstraction de cas où on réutilise le sol existant, et bien il faut l'adapter au projet d'aménagement. On est tous bien d'accord qu'un sol agricole n'est pas le même qu'un sol forestier, ni qu'un sol prairial, ni qu'un sol de sport et loisirs, et je fais même abstraction de toutes les nuances qu'il y a au sein de chacune de ces catégories-là. Alors comment fait-on cela ? En sélectionnant la nature géologique des terres que l'on va recevoir, évidemment je ne vais pas faire un technosol avec des argiles, parce que mélanger des argiles avec du compost, c'est juste impraticable. Mélanger ça avec des terres sulfatées, vous allez avoir un taux de sulfate qui n'apporteront aucun intérêt pour les plantes, voire qui seront même pénalisantes pour les plantes. Donc on choisit en fonction de ce que l'on a, mais on ne peut pas non plus prend ce que l'on n'a pas. La géologie est ce qu'elle est, elle est factuelle, et donc on fait avec ce que l'on a. On joue sur le taux de compost, évidemment, en fonction de l'usage que l'on veut faire. Un sol prairial n'a pas besoin du même taux de matière organique qu'un sol forestier ou qu'un sol horticole dans lequel on va faire pousser des roses ou voire du potager. Sur le mode de mélange, là vous avez en photographie sur la droite un broyeur à cailloux qui est en train de faire le mélange compost et terre et qui au passage broie les matériaux. Mais si on veut avoir un sol plus grossier, on ne va pas utiliser ça, on va utiliser une machine qui va venir malaxer le mélange. Éventuellement avec des intrants complémentaires qui peuvent exister. Et puis bien entendu, toujours en faisant attention à la traçabilité et à la qualité. Et ça, c'est un point très important. Et vous voyez sur la photo de droite, le substrat fertile, puisque c'est le vocabulaire que nous utilisons, en tout cas chez ECT, pour parler de ce matériau-là que l'on produit, est analysé pour vérifier sa conformité avec la norme NFU 44-551, dont Mme Vidal-Baudet a parlé juste avant. Je reviens rapidement sur... je voulais dire une chose sur la précédente. Un point qui avait été soulevé, sur lequel je voulais rebondir, sur le temps qu'on doit laisser au sol. Effectivement, je n'en parle pas écrit ici, mais c'est important. Il faut laisser du temps au sol. Combien de temps? Je ne saurais pas vous le dire, honnêtement, précisément en tout cas. Et c'est un fait, le sol, quand vous le reconstituez, il est foisonné. Donc déjà, il faut attendre qu'il se recompacte un petit peu. On a vécu une expérience, on a fait pour la ville de Paris une esplanade en prairie. Donc on a fait sur 11 000 m2, on a produit 2800 m3 d'un substrat fertile que l'on a fabriqué à l'avancement directement sur place. C'était au mois de mai 2020, donc juste après la sortie du confinement en France. Et pour des raisons électorales, pour être très clair, la ville de Paris a exigé que les sols soient ensemencés dans la foulée, au mois de juin, en pleine canicule. Autant vous dire que ça a poussé, mais ça n'a pas été très glorieux. Donc, il y a effectivement une nécessité de semer rapidement pour que le sol se tienne, pour limiter l'érosion et plein de choses comme ça, mais il faut toujours garder un peu de bon sens, ne pas se précipiter, regarder la météo et en fait simplement avoir un bon sens pratique. Ce que je recommande, en tout cas en général, parce que cette question m'est très souvent posée, c'est laisser le temps effectivement au sol de se recompacter, laisser lui le temps de recevoir un petit peu d'eau, et puis idéalement, en fait, simplement plantez-le à la première bonne saison, c'est-à-dire au début de l'automne, si vous avez fabriqué le matériau quelques semaines, quelques mois avant, et en sortie de l'hiver, si vous l'avez fait vraiment juste avant l'automne. Voilà. Donc, deux exemples concret de ces sols que l'on a manipulés. Premier exemple, réutilisation d'un sol en place. Le sol existait, on l'a donc décapé, stocké, on a ramené les terres excavées, on a surélevé le terrain et on a renappé la terre en question par-dessus. C'est un exemple dans le Val d'Oise, au nord-ouest de Paris. Et dans la foulée, l'agriculteur a semé du maïs. Alors, est-ce que je cautionne? Pas des masses. J'aurais préféré qu'on fasse autrement. Ça a fonctionné. Le rendement n'a pas été extraordinaire, mais ça a fonctionné. Typiquement, je rejoins également les propos de François Fulman, j'aurais préféré que l'on en gazonne ou que l'on mette de la prairie, que l'on laisse les plantes faire leur travail, que l'on laisse les racines tracer le sol. Bon, ben voilà, on a livré le sol et un mois plus tard, il était en train de semer son maïs. Bon, ça a fonctionné. Ça a eu des rendements même tout à fait corrects au regard de ce que c'était, mais effectivement, j'aurais préféré qu'on prenne plus le temps. En dessous, un deuxième exemple, cette fois-ci, fabrication d'un technosol, un substrat fertile. On est dans l'ouest de Paris, dans le département des Yvelines. Le terrain d'origine était... Il n'y avait pas un gramme de terre végétale, c'était une espèce de terrain recouvert de gravats, de béton, une ancienne décharge, enfin, il y avait tout et n'importe quoi. Et on y a construit un stadium VTT. Donc on y a construit un stadium VTT en amenant les terres excavées. Et ensuite, on a fabriqué le technosol, le substrat fertile par-dessus, en sélectionnant parmi les terres excavées apportées les matériaux géologiquement parlant intéressants, en mettant par-dessus une couche de compost, et ensuite en passant cette machine qui a fait le mélange de cette couche superficielle. Et après, cela a été végétalisé, planté, ensemencé, et vous voyez le résultat peu de temps après, mais on voit que ça a fonctionné. Deux mots rapidement sur le modèle économique dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, quelle est la logique de tout ça? C'est faire en sorte que les réemplois des terres inertes, donc des terres excavées, permettent d'autofinancer les projets. C'est l'idée portée par le groupe CT depuis 30 ans, c'est de faire en sorte que ces programmes d'aménagement puissent se faire sans besoin de recourir aux deniers publics. Les entreprises du bâtiment rémunèrent les acteurs que nous sommes pour récupérer leurs terres excavées. Nous utilisons donc cette rémunération évidemment pour payer nos charges, nos coûts, etc., mais également pour financer le projet, c'est-à-dire que chaque arbre, chaque mètre carré de gazon, chaque banc, chaque poubelle posée est financé par l'apport de terre. Donc à la fin, on livre un ouvrage, un parc par exemple, mais ça peut être une zone de biodiversité, ça peut être une ferme urbaine dont chaque élément a été financé par cet apport de matériaux. Et dans le cas donc des substrats fertiles, quand on en a besoin sur nos aménagements, eh bien, c'est financé de la même manière. Et quand c'est un matériau que je fournis à ce moment-là des collectivités qui n'ont pas besoin de terres excavées pour surélever, pour faire un modelé particulier, mais qui ont juste besoin de faire de la prairie, cet apport, cette utilisation de terres inertes permet de financer, de subventionner une partie du matériau et donc de réduire jusqu'à facteur de 3 le coût par rapport à l'achat et l'importation de ces mêmes terres végétales que l'on va aller décaper dans des champs à parfois 100 km. Le tout en apportant des garanties beaucoup plus intéressantes de traçabilité des terres et du compost, traçabilité qui n'existe en gros quasiment pas dans le cas de la terre végétale décapée. Vous ne savez jamais d'où ça vient, ni quelle parcelle précisément, ni ce qu'il y a eu sur ces parcelles-là auparavant. Et de conformité aux normes, puisque, comme encore une fois, on analyse le matériau que l'on produit, on analyse avant les matériaux que l'on a utilisés, et donc on a une traçabilité, une conformité qui est garantie sur ce que l'on produit. Voilà, j'ai essayé de faire rapide.
Merci beaucoup pour l'efficacité de votre présentation, qui doit être à l'image de vos réalisations également. Moi, je termine en laissant la parole à Étienne Roulin. J'excuse peut-être déjà s'il y a des étudiants qui doivent partir pour des questions d'impératifs, d'ateliers, de projets. Étienne ne te formalise pas, ils ne partent pas parce que c'est toi qui parles, mais peut-être parce qu'ils ont faim ou qu'ils doivent l'atelier les appelle. Étienne Roulin, donc, lui, il va nous parler de paramagnétisme. Alors, on va se rendre compte qu'on parle de ce maillon oublié, en tout cas souvent inconnu ou méconnu, et finalement pas si para que ça, en semble-t-il. Et pour cela, ben, on va entendre Étienne Roulin nous dévoiler les secrets du magnétisme du sol. Merci.
Merci, Eric. Voilà, on est déjà à midi et demi. Je mets le chrono, j'ai 20 minutes pour vous présenter le paramagnétisme. Alors je sais que ça fait déjà une bonne matinée qu'on a été assis, mais je vous donnerai votre attention parce que voilà, le paramagnétisme, c'est un peu comme le complexe argilo-humique en première année d'apprentissage. On ne sait pas trop ce que c'est, mais je vais le clarifier en 20 minutes. Ce qu'on a vu ce matin était très très intéressant et je vais intégrer quelques notions à ce que je voulais vous soumettre. Juste un point, quand on fait des études de sol en milieu urbain, oui, ils sont tous différents, mais il y a toujours 3 constantes qu'on retrouve systématiquement. Le premier, on l'a vu, c'est des sols qui sont très très compactés, voire hyper compactés dans l'hypercentre urbain. On a une microbiologie qui est effondrée. Et on a également des teneurs en minéraux qui sont totalement déséquilibrés. Partant de ce constat-là, vous avez devant vous une méthodologie qui fonctionne très bien, qui est le carré de la régénération du sol. Il est très, très schématisé, mais on a justement en haut à gauche du carré le sol habitat. On a parlé avec, j'aimais bien l'image de la maison, un sol poreux. Et plus vous avez un sol qui a une porosité diversifiée, mésoporosité également, bah plus vous aurez aussi un sol qui est habitable par une communauté de micro-organismes beaucoup plus diversifiée. D'où l'intérêt, par exemple, on en parlait à la pause du charbon végétal. On a en haut à droite l'apport de micro-organismes. L'apport de micro-organismes, c'est justement pour réinoculer des sols qui ont une microbiologie effondrée. C'est pas apporter n'importe quoi. Il faut voir si vous voulez des humificateurs, il faut voir si vous voulez des prédateurs de bactéries ou si vous voulez des minéralisateurs, par exemple. Et puis on a à droite la nourriture des micro-organismes où là, c'est tout simplement non pas des engrais organiques, mais du carbone. Et vous avez à droite, en bas à gauche, le fameux paramagnétisme. Donc voilà, je m'y lance. N'hésitez pas s'il y a des demandes. Mais en gros, 4000 km sous nos pieds, on a un noyau en fusion et on a un deuxième noyau également qui sont composés de fer et de nickel. Et à 4000 km sous nos pieds, on a le premier noyau au fond qui tourne moins vite que le second et ça crée un effet dynamo. On appelle ça la dynamo terrestre et c'est en fait le champ électromagnétique. On le ressent, on a tous eu, quand on était petit, une petite boussole dans les mains. L'aiguille, le petit point rouge est magnétisé, elle se magnétise en fonction du champ magnétique. Donc le champ magnétique terrestre, c'est à 4000 km sous nos pieds. On a ici des schémas que vous voyez à l'écran de cette force qui est invisible mais qui est naturelle. On le voit également avec les aurores boréales, quand vous allez de août à mai, en Laponie ou en Norvège, vous avez des aurores boréales. Et ben, c'est tout simplement où le champ magnétique se recoupe dans les pôles et on a des éruptions solaires et le champ électromagnétique, le champ magnétique de la Terre ici nous protège des éruptions solaires. À l'heure actuelle, jusqu'en 2025, on a une forte intensité d'éruptions solaires, de tempêtes solaires. C'est ce qui fait que je vous invite à aller voir les aurores boréales, elles sont très belles en ce moment. Donc voilà, c'est une force, au contraire de la force gravitaire, où je lâche une pomme, elle tombe par terre, on le voit, le champ magnétique, il est très très utile, il est invisible, c'est là que part le magnétisme. La Terre, elle est aimantée, la Terre, elle se magnétise. On a en 2013 l'Agence spatiale européenne qui a envoyé plusieurs satellites pour mesurer l'aimantation de la croûte terrestre. Donc là, on est sous nos pieds, la roche-mère qu'on en parle beaucoup dans les premiers fascicules d'apprentissage en pédologie. Et on a une croûte qui est aimantée. Donc la mission SWARM là, de l'Agence spatiale européenne, ils ont pu mesurer la croûte terrestre, à quel point elle est aimantée. Et ils ont pu la cartographier sur une montre que vous avez ici. Et plus on était en rouge, plus le sol était aimanté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, des pédologues et des géologues et écologues aussi ont été sur place et ils ont observé que ce qui se magnétisait, c'était les roches que vous avez ici, c'est les principales roches qu'on retrouve dans la roche-mère. On a des roches métamorphiques, magmatiques, donc c'était des roches qui sont issues des volcans. C'était des laves et ils ont subi une cristallisation, une solidification. Donc on a du granit, de la pierre ponce, du basalte, du schiste, tout ça, c'est des pierres volcaniques qui sont magnétiques, qui se magnétisent. Si je vais avec un aimant sur un substrat pour toiture qui a de la roche volcanique, vous retirez l'aimant, vous avez certaines particules de sol qui se sont magnétisées avec l'aimant. Donc qu'est-ce que c'est le paramagnétisme maintenant? Le paramagnétisme, c'est la capacité qu'a une roche à s'orienter comme une boussole en fonction du champ magnétique terrestre que je vous ai présenté. Donc vous avez ici la roche, et puis à l'intérieur de cette roche volcanique, je me recommande, c'est vraiment de la roche volcanique, vous avez des particules qui sont paramagnétiques, qui s'orientent en fonction du champ électromagnétique de la Terre, comme la boussole. Hein, c'est comme si vous avez une aiguille. Et puis, quand vous avez ici à droite une source de champ magnétique, par exemple, si je viens avec mon aimant, ces particules vont s'orienter en direction du champ magnétique terrestre. Donc, les particules vont s'orienter et s'aligner en fonction du champ électromagnétique. Maintenant, si je coupe le champ électromagnétique, ça perd subitement son magnétisme. Donc là, un autre schéma, vous avez ici les particules qui sont désordonnées. Une fois qu'on active le champ magnétique terrestre, on a les particules qui vont contre le haut. Et plus on va augmenter le champ magnétique, plus les particules vont s'orienter en direction de ce champ. Maintenant, c'est bien joli tout ça. C'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que cela signifie pour les sols en milieu urbain ? Il y a justement le docteur Phil Callan qui est à l'écran ici qui a constaté que les plantes saines, vigoureuses poussent uniquement sur des sols qui sont élevés au niveau du paramagnétisme. Phil Callan, c'était pas n'importe qui, c'était un entomologiste, donc un spécialiste des insectes, qui était également ornithologue, et puis il était un spécialiste des fréquences. Il avait été envoyé en Irlande pendant la Deuxième Guerre mondiale pour envoyer des fréquences secrètes dans les sous-marins et pour l'aviation. Et il était stocké vers Devenish. Pour ceux qui connaissent l'Irlande, il y a une grande tour de 36 mètres de haut, légèrement inclinée, qui est faite de grès, donc qui est hautement paramagnétique. Et puis il a demandé une fois, c'était à des pêcheurs, « Ah mais pourquoi les bergers vont faire paître leurs moutons jusqu'à Devenish ?» Eh bien, il y avait... le pêcheur, il a dit, l'herbe, elle est meilleure, elle se régénère beaucoup plus rapidement. Puis lui, avec ses fréquences, il a pu mesurer qu'on était environ à 1300 CGS. Je vais vous expliquer maintenant. Donc, on peut mesurer maintenant si la Terre, elle a une susceptibilité magnétique, si elle est paramagnétique ou non. Et puis, Phil Callan a développé justement cet appareil ici, qui est le PCSM. Donc, vous prenez 25 grammes de sol, vous le mettez dans une capsule en bas à gauche, ici, et ça va créer un champ magnétique, et puis vous allez obtenir une mesure. Et il a une valeur de référence qui est, donc ici, vous avez pauvre, un sol pauvre au niveau du paramagnétisme, on est entre 0 et 100 CGS, centimètres grammes seconde. Un sol bon, on est entre 100 et 300, un très bon entre plus 300 et plus 700, etc. La moyenne des sols anthropisés en Suisse, on est à 40 CGS, et pour les Français, on est à 30 CGS. Et c'est une notion qui est très utile parce que je vais vous montrer un peu des résultats de croissance de plantes dans des sols qui sont élevés au niveau du paramagnétisme. Toutes les roches sont hautement paramagnétiques, les roches volcaniques, mais il y en a une qui se distingue un peu plus, c'est le basalte. Toutes les roches volcaniques, comme j'ai dit, le schiste, le granit, etc., sont entre 300 et 2000 CGS, centimètres grammes secondes. Donc c'est déjà pas mal comparé à un sol qui est entre 30 et 40 CGS. Mais il y a une roche qui est le basalte qui se distingue un peu plus, elle est, quand on la mesure, en 3000 et 12000 CGS. Donc on a de la poudre de roche qu'on trouve maintenant sur le marché. Il y en a même qui est sur la liste du FIBEL, d'ailleurs. Qui a cette granulométrie qui est parfaite pour le paysage. Et maintenant, je vais vous montrer deux études sur la croissance des plantes. Vous avez un livre ici très sérieux qui est Géothérapie. Géothérapie, c'est un livre qui fait 600 pages, qui regroupe 50 études sur justement les soins du sol. Et voilà, c'est des méthodes innovantes pour restaurer la fertilité du sol, stocker le carbone et inverser la croissance du CO2 dans l'atmosphère. C'est un livre qui est actuel aujourd'hui. Et puis dans ce livre, sur les 50 études, vous en avez ici 5 sur la poudre de roche. Donc pas forcément le basalte, mais aussi la poudre de roche. Et vous avez, j'ai sélectionné la 17 ici, qui est justement la poudre de roche basalte, avec du basalte. Donc c'est une étude qui a été faite sur 5 ans avec un profil de sol très suivi, des conditions similaires au Panama, où ils ont mesuré périodiquement la croissance sur 3 sites différents mais qui présentent les mêmes caractéristiques. Vous avez à gauche une végétation où ils ont semé des acacias. Et puis que vous avez un sol qui est pauvre au niveau du paramagnétisme. Au milieu, ils ont aussi semé des acacias, mais ils ont simplement mis de la poudre de roche volcanique, donc on était entre 300 et 2000 CGS. Et puis à droite, c'est un autre site où ils ont mis de la poudre de roche volcanique plus du basalte dans les premiers centimètres, et puis ils ont aussi semé des acacias. C'est pas l'évolution du site, c'est vraiment 3 sites différents avec les mêmes conditions de sol. Et je vous invite à voir l'article sur le livre. Ils ont mesuré la circonférence du tronc, qui était 2,3 fois plus élevée. Là, j'ai mis la hauteur. On voit que la hauteur était également plus élevée. Ils ont aussi mesuré les fuites de carbone, donc le stockage du carbone dans le sol. Je vous invite à voir cette étude. Maintenant, par rapport à ça, ben, ça je le vois aussi sur le terrain, hein, pour ceux qui, avec qui je collabore, il y en a qui disent « Ah ben oui, le basalte, c'est quand même élevé en nutriments, et c'est la plante qui est nourrie avec ses nutriments. » Oui, là je vous ai mis des contenances du basalte. Basalte au niveau nutritionnel, c'est fantastique. Ça contient du cobalt, du magnésium, du cuivre, du phosphore, beaucoup de silice qui va protéger la plante pour tout ce qui est oïdium, mildiou, etc. Et puis, ben voilà, des fois, ben, la question se pose, est-ce que la vitalité des plantes a augmenté grâce au paramagnétisme ou bien avec les minéraux qui sont contenus dans la roche? Et là, il y a des études qui datent de 2000 et que je vais vous présenter maintenant, qu'ils ont fait de la crèce aux États-Unis, très intéressante. Ils ont mesuré l'effet du paramagnétisme sur la croissance des plantes. Et donc il y a plusieurs études, je vous invite à aller voir, mais là je vous ai sorti deux études. En fait, ils ont encapsulé le basalte ou différentes poudres de roche dans des capsules scellées pour éviter le transfert des minéraux, pour éviter que le terreau en laboratoire soit minéralisé et puis que la plante puisse se nourrir. Donc ils ont pris des poussières de roche, ou du basalte, ils ont scellé avec des petites bobines comme ça pour éviter le transfert de nutriments. Et à gauche ici, vous avez un essai sur des zinnias. Vous avez le témoin à gauche, et puis vous avez ça, c'est la hauteur du zinnia, de la plante. Vous avez en ferromagnétique, ça c'est un autre élément, pour manque de temps, je ne vais pas vous l'expliquer, mais on a ferromagnétique, on est en dessous de 4 pouces. Pour le contrôle, on est à 4,8 pouces, ça représente environ 10 cm de hauteur. Et puis où le sol, c'est pas le sol qui était élevé au niveau du paramagnétisme, mais c'était la poudre de roche qu'il y avait dans la capsule qui était paramagnétique, on était à 6,2, 6,3 pouces, ça représente environ 15,24 cm. Donc on voit qu'il y a un effet. Puis une autre étude qui a été faite en Floride cette fois, aussi intéressante, c'est que, donc c'est la figure 2 ici, très intéressante, c'est qu'ils ont encapsulé de la poussière de roche qui contenait un niveau de paramagnétisme différent, qui était progressif. Donc ils ont encapsulé du 200 CGS, donc la poudre de roche qui faisait 200 CGS, du 400, du 600, du 800, du 1000, et ils ont encapsulé tout ça pour éviter le transfert des nutriments, et ils l'ont mis dans plusieurs cultures. Et on voit que plus le CGS augmente, plus la croissance, ici je vous montre la longueur des racines des plantes, on voit que on a, plus le CGS est élevé, plus c'est élevé au niveau du paramagnétisme, plus on a une meilleure croissance racinaire. Après, vous pouvez aller voir les études. Vous avez également tout qui a été hiérarchisé avec la biomasse racinaire, l'élongation racinaire, le feuillage était plus gros, plus lustrant. Donc, c'est très intéressant de voir que on n'a pas uniquement les minéraux qui sont contenus dans la roche. On a aussi le niveau du paramagnétisme. Je vous invite également à aller sur le blog de Monsieur Devier, qui est à l'université de Saclay-Paris. Ou Paris-Saclay, qui ont relancé des études depuis 2015 et 2019, et ils publient régulièrement sur son blog les effets de la croissance de la magnétoréception végétale. C'est un bien joli mot, mais c'est ça. Voilà, deux dias avant de terminer. Avec Microsol, on travaille beaucoup avec des gens du terrain, et également l'Université de Lausanne, une fois j'ai vu des bactéries quand c'est noyau ici, donc ça vous avez une bactérie ici, c'est une bactérie magnétotactique. Les bactéries magnétotactiques, on les trouve beaucoup dans l'eau et dans le sol, et ces bactéries magnétotactiques, elles ont des petits points noirs ici. Et puis j'ai demandé à Roxane Moritz, doctorante à l'université de Lausanne, me dit mais c'est quoi ces trucs noirs là, c'est un début de cancer ou je sais pas. Mais en fait, elle m'a dit, c'est des cristaux de magnétite. La bactérie magnétotactique, elle va capter le fer qui est dans le sol, et puis pour son métabolisme, elle va le métaboliser, et puis elle va créer de la magnétite. Et il s'avère que la magnétite, c'est un cristaux de roche, comme vous avez là en haut, qui est fortement élevé au niveau du paramagnétisme. Et elle s'en sert, en fait, pour s'orienter en fonction du champ magnétique pour rechercher de l'oxygène. Donc souvent, on retrouve ces bactéries magnétotactiques dans les 20-30 premiers centimètres du sol pour se déplacer. Donc les bactéries magnétotactiques, elles possèdent ces cristaux de magnétite qui sont élevés au niveau du paramagnétisme, et puis ça oriente la nage des bactéries en fonction du champ magnétique. Et puis là, j'ai aussi une vidéo qui m'a été aimablement prêtée. Donc les scientifiques, pendant le Covid, ils ont un peu s'amusé, ils ont amusé à faire ce genre de pratique. Ils ont pris une ancienne télécommande de jeux vidéo, et ils se sont munis d'un microscope, d'une solution avec des bactéries magnétotactiques, et puis ils peuvent, avec la manette, couper le champ magnétique de la solution, et puis ils peuvent l'orienter. Si le scientifique appuie à gauche, le champ magnétique est à gauche. S'il va à droite, c'est à droite. S'il va en haut, le champ magnétique est en haut. Et c'est assez intéressant, vous allez voir que quand il appuie en haut, quand il appuie à gauche, ben les bactéries magnétotactiques vont s'orienter en fonction du sol, en fonction du champ magnétique du sol. Donc c'est intéressant. Après, on voit là qu'ils arrivent à faire des tours. On voit que dès qu'il active, vous avez les bactéries magnétotactiques qui se déplacent en fonction du champ magnétique terrestre. Ce qui est intéressant dans cette image-là, c'est que, donc ça c'est Roxane Moritz, doctorante à l'Université de Lausanne. Ces bactéries-là, elles vivent aussi en symbiose avec des protozoaires, des amibes, etc. Donc c'est intéressant de voir qu'elles pourraient aussi, ça c'était une question ouverte qu'elle avait, peut-être qu'elles aident également à... Il y a des symbioses qui se font, et il y a certainement une entraide entre micro-organismes aussi. Tu voudras la mettre avec le son, Clément, ou bien ça vous réveillera pour la matinée. Je sais pas si le son. Régie là-haut. Donc, ce qui est intéressant, c'est que... Voilà. Là, on n'a pas la vidéo, mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on active le champ magnétique, les bactéries vont vraiment se diriger, quoi. Et puis les scientifiques, ils s'amusent un petit peu, c'était pendant le Covid. Ouais. Ça ressemble un petit peu, je crois. Voilà, ça y s'amuse un petit peu. Donc je vous remercie en tout cas, j'espère que ça a ouvert un peu votre esprit, mais voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une bonne continuation, et puis à très bientôt. Hein. Merci.
Voilà, merci beaucoup Étienne, effectivement, sur cette note un peu de country music pour terminer la matinée. La journée n'est pas terminée. Vous pouvez faire valoir votre petit bon à vos lunchbox auprès de la cafétéria. Je vous rappelle aussi que toutes les présentations, vous pourrez les trouver déposées sur le site plantecité.ch, et que à l'aide de vos tickets de transport, si vous n'en avez pas, vous pouvez encore en faire la demande, il en reste quelques-uns je crois, vous pouvez tenter le bus ou prendre le train, le SEVA, en direction de la gare de Schönbourg, pour qu'on puisse se retrouver à 2h30 au plus tard sur le parking de Belle Idée. Voilà, je vous souhaite une bonne intermède, et puis à tout de suite plus loin dans la campagne genevoise.